Bien-aimés frères et sœurs en Christ, amis et compagnons, nous voici rassemblés aujourd'hui pour adorer et louer notre Seigneur et Créateur au nom de Jésus-Christ. Que cette assemblée, cette ecclésia qui désigne originellement une assemblée issue d'un cri, ou de multiples appels singuliers, cette Église donc aujourd'hui, la vôtre, la nôtre, qu'elle devienne un lieu de paix et de réconfort pour chacun d'entre nous, à qui j'adresse mes félicitations d'être arrivé au 1er janvier à 10h30. Un moment, effectivement, de paix, de réconfort, où nous pouvons poser nos fardeaux et nous remettre, déjà d'une année sans doute, mais nous remettre entièrement dans les mains de Dieu. Que ce moment soit également l'occasion de nous encourager mutuellement dans notre foi et de nous soutenir les uns les autres pour les épreuves de la vie. Que Dieu nous bénisse et nous guide tout au long de cette célébration pour que nous soyons renouvelés et que nous soyons fortifiés dans notre foi en lui. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, pour chanter le 4204, y chanter les strophes numéro 1, 2, 3, 4, pardon, et 8, 1, 2, 3, 4, 8, et vous trouvez ce chant, page 624 de votre recueil, et nous laisserons Myriam, qui nous accompagne aujourd'hui, le précéder un petit peu musicalement, pour qu'on l'entende.
Thank you.
Lumière dans nos ténèbres, soleil brillant sur nos jours, force qui nous soutient dans l'épreuve, amour infini qui nous comble de grâce. Nous te louons et te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais, pour ta bonté, ta miséricorde, ta présence constante dans nos vies. Rocher, refuge, espérance, joie, tu nous aimes sans fin et nous, nous pouvons donner notre cœur. Je vais vous inviter maintenant, et c'est une fois que ça arrive dans l'année, je dirais, à répéter après moi ces 5 courtes louanges, donc à bien les entendre, ensuite pour que nous puissions les dire ensemble. Je vous précède. Ton amour infini, comme un rayon de soleil en hiver, chauffe mon cœur gelé. Ton amour infini, comme un rayon de soleil en hiver, chauffe mon cœur gelé. Ta gloire et ta grâce sont un flambeau qui éclaire mon chemin. Je te suis, Seigneur. Ta gloire et ta grâce sont un flambeau qui éclaire mon chemin. Je te suis, Seigneur. Tu es mon rocher, mon refuge et ma force en tout temps. Je te loue, Seigneur. Tu es mon rocher, mon refuge et ma force en tout temps. Je te loue, Seigneur. Ton espérance en moi, comme une fleur qui émerge de l'hiver, réchauffe mon âme. Ton espérance en moi, comme une fleur qui émerge de l'hiver, réchauffe mon âme. Et la dernière. Ton amour infini comble mon cœur de joie et de paix et me guide toujours. Ton amour infini comble mon cœur de joie et de paix et me guide toujours. Nous restons assis exceptionnellement puisque nous avons loué le Seigneur assis. On va être debout mentalement finalement pour chanter le 42-01. Y chanter les strophes numéro 1, 2, 3 et vous trouvez ce chant, page 621, « Ô mon âme, magnifie le Seigneur ». Donc c'est bien le 42-01, 3 strophes, page 621 et encore une fois Myriam s'il vous plaît. la prière de conversion ensemble, comme l'indique votre feuille. De notre indifférence à ton égard, de tout oubli de tes commandements, délivre-nous, Seigneur. De toute mauvaise humeur, délivre-nous, Seigneur. Éloigne-nous de toute paresse et lâcheté dans nos communautés, comme de toute irresponsabilité dans notre travail, de tout découragement, délivre-nous, Seigneur. Dieu, au travers de son Fils, nous offre le don précieux du pardon. Il nous permet de laisser derrière nous des erreurs, des faiblesses, et de reprendre notre chemin avec confiance. Mais le pardon est également un acte de bienveillance envers soi-même et envers les autres, qui nous permet de guérir nos blessures et de nous libérer de certains de nos fardeaux. C'est une chance de recommencer et de se réconcilier avec soi-même. On ne va pas laisser notre orgueil ou notre fierté nous empêcher de recevoir ce cadeau inestimable. On pourra ouvrir nos cœurs et accepter ce don de grâce avec reconnaissance. Que cette annonce du pardon que je suis en train de vous faire nous rappelle que nous sommes aimés de Dieu et que nous avons une place précieuse dans son règne. Amen.
Nous allons écouter la volonté de Dieu qui a été ici proposée par Karl Barth. Notre participation à l'œuvre de Dieu, c'est l'acte qui consiste à donner notre adhésion à cette œuvre. C'est une grande chose de prêcher, de croire, de réaliser notre petite obéissance au commandement de Dieu. Mais dans toutes ses formes, de l'obéissance et de la foi, c'est la prière qui nous met en rapport avec Dieu, qui nous permet de collaborer avec lui. Dieu nous invite à vivre avec lui, et nous, nous répondons « Oui, mon Père, je veux vivre avec toi ». Alors il nous dit « Prie, appelle-moi, je t'écoute, je vivrai et je règnerai avec toi ». Et nous lisons ensemble la prière d'illumination que vous trouvez sur votre feuille. Ouvre nos oreilles, dispose de nos cœurs, afin que nous recevions ensemble, maintenant, la connaissance du salut que tu nous accordes. Le premier texte du jour est tiré de la lettre aux Galates, chapitre 4. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est tout petit, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des intendants jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions petits, nous étions esclaves des éléments du monde, mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption filiale. Et parce que nous étions des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier du fait de Dieu. Le deuxième texte, et que vous trouvez aussi sur la feuille de culte d'aujourd'hui, au verso, dans Nombre 6, versets 22 à 27. Le Seigneur dit à Moïse, « Dis à Aaron et à ses fils, vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur direz, « Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que le Seigneur lève son visage vers toi et te donne la paix.
Ainsi, ils placeront mon nom sur les Israélites et je les bénirai.
Qu'est-ce que cette nouvelle année nous réserve? Mais enfin, croyez-vous qu'il existe une réserve? Ou en d'autres termes, que votre avenir soit déjà écrit et que le script de celui-ci vous attende dans une réserve? Je crois plutôt que notre fabrication mentale, notre capacité de projection, d'anticipation nous pousse à croire un peu que cette réserve existe. Ce qui fait que quand ce que nous avons projeté se réalise, par exemple, notre prochain conseil presbytéral du 9, et que celui-ci arrive, mais évidemment aussi des milliers de ces autres événements qui constellent une année d'individus humains sur la Terre, bien tout ça finit par nous donner l'illusion qu'il existe en effet une réserve. Alors qu'il ne s'agit que d'une pure illusion d'agenda. Oui, le plus souvent, et c'est bien de le dire des fois, les choses que nous avons anticipées, programmées, arrivent. Bien entendu, il y a des effractions dans cette sorte de destin que nous écrivons nous-mêmes. Quand ces effractions ne sont pas très graves ou pas totalement inattendues, notre mental arrive quand même à les faire entrer dans un programme dont le cours se remet assez vite en place. Certes, personne ne programme qu'on lui vole son portable dans le métro, mais quand cet événement arrive, on se dit que cela pouvait arriver. Ou par exemple, je n'avais pas anticipé ce chien qui aboie. Je n'avais pas programmé non plus un dimanche de décembre, je crois que c'était Noël, mais j'en suis plus sûr finalement, de glisser sur un bout de plastique dur sur un pavé humide de la rue Mouffetard et de me recevoir sur un genou, lequel aura été endolori pendant tout un culte qui était l'aboutissement de ce trajet. Des exemples qui ne sont pas trop graves et pas totalement inattendus. On peut glisser. Un chien peut aboyer, on peut se faire voler son portable. Mais même quand l'effraction est de plus haute intensité, à condition néanmoins que nous ayons eu une éducation propice à y faire front, un entourage aidant ou professionnel aidant, voire des ressources financières suffisantes, ce qui fait quand même beaucoup de conditions, j'avoue. Mais même dans ce cas-là, notre mental arrive presque toujours à réparer, à recoudre le tissu, le texte, la texture de cette sorte d'écriture de notre destin qui n'en est pas un, car encore une fois, c'est nous-mêmes, pas forcément consciemment, qui l'élaborons en inscrivant des choses à faire dans le temps à venir. Pour en arriver finalement à presque confondre ce qui est inéluctable avec cette programmation de notre vie, au point de croire que ce qui nous arrive de régulier était écrit alors que c'était juste la projection d'une date, d'un horaire que nous avons indiqué à nous-mêmes, à notre corps social en mouvement, presque perpétuel. Du point de vue théologique, les croyants imaginent souvent un Dieu qui connaît, voire qui fabrique, le contenu de cette réserve qu'il aurait aménagée pour nous. Mais ce Dieu-là n'est pas forcément toujours le Dieu biblique tel qu'il est présenté dans ses différentes versions littéraires dans la Bible, dans ses différentes métamorphoses, presque. Le Dieu biblique serait plutôt un Dieu qui est lui-même cette effraction du même type que celle que je viens d'évoquer, un Dieu qui surgit au milieu d'un ordre présumé naturel, d'une chronique des jours, qui surgit dans le destin tel que se le sont depuis toujours imaginés des philosophes, à savoir l'ordre rationnel des enchaînements des causes et des effets, ou les mouvements aveugles et telluriques du sol, des volcans, des passions, des colères, de l'amour, en somme, tous les ingrédients d'une bonne série sur Netflix, mais tous les ingrédients d'une fatalité qui font croire que cette fatalité existe. Un regard qui serait moins construit d'avance dans l'abordage de la Bible, je dirais, un regard plus malin sur comment est présenté le Dieu biblique, montre que celui-ci n'a pas grand-chose à voir avec ce fameux grand architecte ou ce grand horloger, enfin tout ce qui est grand. Pas grand-chose à voir avec non plus le grand tournoiement des choses et des êtres, des années qui passent, des naissances et des morts. Le Dieu biblique est moins, mondain. Sans invitation, il arrive. Quand il éclaire le chaos naturel existant d'une parole qui fait la lumière. Il arrive quand il parle d'une façon inattendue dans un buisson ardent. Il arrive quand il s'adresse à un prophète dans un souffle, dit la Bible, subtil et léger. Quand il combat avec son peuple, quand il parlemente, quand il tente d'organiser un peuple et un monde finalement par des paroles qui ont la vertu de commandements prophétiques, puisque ces paroles se situent dans un futur qui n'est pas advenu, mais qu'on espère, tel que tu aimeras ton prochain comme si c'était toi-même. Quand il arrête, ou plutôt quand il n'arrête jamais, ce Dieu, de proposer de nouvelles alliances. Et à la fin, on a de la peine à croire qu'il savait d'avance que toutes les alliances qu'il avait proposées allaient toutes être rompues. Le Dieu biblique, c'est aussi celui qui donne un fils venu de nulle part, c'est-à-dire du fin fond de la Galilée, un fils qui n'est jamais celui qui est attendu, qui n'est pas là où on l'attend, mais plutôt dans le désordre avec les collecteurs de taxes, avec les lépreux, avec les adultères, avec les Romains même, avec les pauvres et même certains riches. Et quand il est là où on l'attend, il n'y fait pas ce qu'on y attend. D'emblée, il sème la panique, on dira, au cours de sa première prédication dans la synagogue de Nazareth. Pourtant, il était là où on l'y attendait. C'était son rôle. Mais bon. Puis, il maudit le temple de Jérusalem, quand même. Et on le retrouve crucifié comme un subversif. On ne s'y attendait pas. Et un fils qui, et encore une fois, on ne peut pas dire finalement dans les évangiles, c'est ça qui est bien, un fils qui, pas finalement, n'est même pas resté dans la tombe où on l'avait mis. Encore une effraction. Donc certes, la Bible suggère parfois, évidemment, l'omniscience de ce Dieu, mais ce terme est déjà bien un terme de théologien. Car en lisant la Bible, on rencontre plutôt qui se bat en permanence contre la pesanteur de la fatalité. Vous l'avez entendu dans un de ces cantiques qui parlait de destinée. Le Dieu qui nous sort de cette destinée, qui se bat contre la pesanteur de la fatalité et qui le fait en toute liberté. Cette liberté puissante, voire toute puissante, et cette liberté que les humains ne possèdent pas. Puisque eux, ils obéissent à leur nature, à leurs conditions, à leur famille, à leurs supérieurs, et bien entendu à toutes les prescriptions qu'ils établissent eux-mêmes, pour eux-mêmes, tels des médecins qui s'automédiquent. Cette liberté que les humains ne possèdent pas, au certes que parfois ils croient posséder, mais ce n'est qu'une illusion. Par exemple, les plus forcenés des dictateurs qui se sont juchés sur ce qu'ils considèrent comme un sommet, sont les plus sinistres pantins qu'on puisse imaginer, possédés qu'ils sont par l'idée fixe de ne pas perdre le pouvoir ou de ne pas mourir. Alors certes, ils jouissent, mais dans une solitude dont on leur cache toujours la noirceur, car ils sont beaucoup moins libres que beaucoup de communs des mortels que nous sommes, car ils sont cernés par la peur du complot, par la peur de l'assassinat, ils sont entourés de gardes du corps surpayés et surarmés. Bon. Cette liberté que les humains ne possèdent pas, sauf par réfraction. Et c'est à ce moment-là que avoir la foi prend un sens, quand le Dieu, tout puissamment libre, rencontre l'humain enchevêtré dans des myriades de cordes invisibles qui représentent son destin, qui n'a même pas besoin d'être écrit, tant il semble être d'un ordre naturel des choses et des cycles. C'est pour ça qu'on aime Paul, l'auteur de la lettre à l'église de Galatie qui a été lue tout à l'heure par Anne. Il dit, Paul, vous n'êtes pas esclaves, mais fils. Et fils ou fille, bien entendu, vous êtes héritier. Et cet héritage, ce n'est pas exactement encore la liberté toute puissante, mais c'est déjà l'affranchissement d'une grande partie de ce destin qui lui-même en grande partie est constitué d'un imaginaire si puissant qu'on le croirait naturel. En résumé, alors vous allez rester soumis aux aléas de votre chair, ça c'est sûr, aux mouvements climatiques et aux guerres des autres, mais vous ne serez plus jamais soumis à des obligations qui n'existent pas. Vous ne serez plus des obligés, puisque vous n'êtes plus esclaves, dit Paul, des éléments du monde. Mais vous êtes des affranchis en Jésus-Christ, comme celui-ci l'était lui-même quand il a fait effraction dans un monde qui, avouons-le, attendait quelqu'un d'autre. Et quant à ces fameux ordres d'un prétendu cosmos qui vous fait naître, vous enroule, vous fait disparaître et vous remplace finalement. Même face à tout ça, toute cette démesure qui effraie, vous serez à même, suggère Paul, d'y faire face, car vous venez d'hériter d'une force considérable dont le creuset est ce vis-à-vis avec le Dieu éternel qui est venu vous affranchir. Désormais, vous ne faites plus face au monde. Vous ne faites plus face au monde. Mais vous êtes en vis-à-vis de Dieu. La bénédiction du livre des Nombres, qui a été aussi lue par Anne et qui est très souvent reprise dans nos liturgies, le dit bien, que le Seigneur fasse briller son visage vers toi, que le Seigneur lève son visage vers toi. C'est ce que veut dire vis-à-vis, visage à visage. C'est cette rencontre que l'on se souhaite. C'est cette bénédiction que l'on se donne ce matin, en ce début d'année. Une percée au cœur de la programmation des jours. Un courage pour affronter tous les imprévus, parfois dramatiques. Car celui qui a franchi, qui nous a franchis, ne nous abandonne pas dans le désert. Il n'abandonne aucune de ses filles, aucun de ses fils qui ont eu le culot de croire en lui et qui se moquent du destin.